Bonjour Corentin Tillois.
Bonjour Sarah.
Nous vous rencontrons ici à Saint-Julien-en-Vercors, 2 jours avant la projection qui est prévue de votre film documentaire Cri d'appel organisé par Villa Glovette. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions sur ce film.
Merci à vous de m'accueillir pour cette émission. Je suis très ravi de pouvoir parler de ce travail qui m'a tenu énormément à cœur pendant quelques années.
C'est un travail qui est fait de beaucoup de rencontres, aussi de quelques voyages.
Oui, des voyages, mais essentiellement en France. Alors, il s'avère que le film commence par un enregistrement qui m'a été transmis depuis la Géorgie. Et c'est comme ça que s'ouvre le film. Et sinon, j'ai voyagé au gré des rencontres que j'ai pu faire. Et aussi des situations géographiques où certains membres de ma famille vivaient, par exemple. Notamment l'Ariège. Et j'ai pu rencontrer un éleveur en Ariège parce que ma mère y vivait. Et alors que depuis le Limousin, c'est très compliqué de mettre un voyage en place comme ça et de loger quelque part.
Donc vous venez de le dire, vous avez rencontré un éleveur, vous avez rencontré plusieurs éleveurs et des bergers. Et votre focus a été sur les sons qui sont utilisés par les personnes qui travaillent à contact avec les animaux pour travailler avec eux finalement et pour vivre avec eux.
Oui, c'était un questionnement que je me suis fait. Parce que moi, j'ai une pratique d'artiste-auteur et puis je suis aussi salarié agricole dans un élevage. C'est une activité que j'ai depuis quelques années. Et du coup, la question du son se pose, en tout cas, elle s'est posée en premier lieu lorsqu'il fallait changer les vaches d'un pré à l'autre. Et donc, du coup, la question était comment faire, quoi prononcer, de quelle manière, pour que le contact se fasse et que je puisse faire ce que j'ai à faire, quoi. Et pour pouvoir donner de l'herbe aux vaches qui, elles, ne comprenaient pas spécialement ce que je voulais faire puisqu'elles ne me connaissaient pas. Et donc, du coup, il y a la question du son qui s'est posée en premier lieu. Et après, la question de l'habitude et de la connaissance, comment dire, de l'habitude qu'a le troupeau avec son éleveur ou son éleveuse et inversement. La recherche s'est posée là-dessus en premier lieu. Donc, j'ai contacté après différentes structures d'archives parce que, du coup, il était dit que certains sons pouvaient être produits et, par exemple, prononcer quelque chose de plus grave pour les vaches, de plus aigu pour les brebis. On disait que voilà, c'était quelque chose qui fonctionnait. Sauf que, voilà, effectivement, il y a la question de l'habitude à côté et de la connaissance du troupeau et de l'éleveur ou de l'éleveuse. Et donc, il s'avère que c'est plus compliqué que les sons, même s'il y en a qui, a priori, seraient mieux perceptibles par un type de bétail ou un autre.
Donc, vous avez commencé par un travail d'archives.
Oui. C'est une habitude que j'avais, moi, depuis quelques années dans mon travail, que j'adore faire. Le problème, c'est que sur les archives liées au travail en élevage, c'est plutôt des archives qui sont, du coup, un peu liées au patois, à l'occitan, par exemple. Il y avait des archives dans le sud de la France, en Languedoc, que j'avais contactées. Sauf que ces archives qui n'ont pas forcément intéressé énormément de monde, qui fait que du coup c'est assez mal trié. Moi je ne parle pas l'occitan, donc c'était assez compliqué pour moi de savoir de ce qu'il en ressortait, quoi. Donc le travail d'archive a été, c'est ce que j'ai fait en premier lieu, mais ça ne m'a pas apporté énormément de choses. Et après c'est toujours des questions d'habitude, parce que du coup on se dit, voilà, effectivement on dit plus aigu pour les brebis, plus grave pour les vaches. Après il y a des choses qui sont liées à ce que produisent les animaux comme bruit. Donc on appelle par exemple les volailles d'une manière particulière en imitant ou en tout cas en interprétant des sons qu'elles pourraient produire pour pouvoir communiquer avec elles, sans forcément reproduire à la lettre. Mais voilà, parce qu'il y a toujours une distance, quoi, entre la personne et le troupeau dont elle s'occupe.
Par exemple, les bergers, ils ne s'adressent pas que aux chèvres, par exemple, mais aussi aux chiens. Et donc, il y a une certaine manière d'appeler les chiens et une certaine manière d'appeler les troupeaux.
Oui, effectivement. Alors, dans le film, par exemple, la première personne qui est interrogée, qui est un berger que j'avais rencontré, qui s'appelle Patrice quand j'étais en Savoie, quand je travaillais en Savoie. Donc lui, il expliquait, il parlait des chiens notamment liés à leur éducation. Et donc, il trouvait important le fait d'employer, pour dire la même chose, pas le même mot, pour les deux chiens. Et donc, par exemple, s'il voulait que ces deux chiens aillent à gauche, mais un aille à gauche et l'autre à droite, en tout cas, il jouait avec les mots pour que, en fait, avec deux mots, ils puissent émettre la même chose, qu'ils puissent permettre de, voilà, dissocier les chiens l'un de l'autre et pour pouvoir faire une action un peu globale sur le troupeau. Et après, il y a une question, le son est important d'un point de vue paysager aussi, c'est-à-dire que l'endroit où on se trouve ne répercute pas les sons ou les mots qu'on dit de la même manière. Par exemple, en montagne ou en plaine, ça ne va pas se passer de la même manière. S'il y a des arbres, ça ne va pas se répandre non plus de la même manière. Et donc, du coup, le son, en fait, finalement, il était prétexte à ce travail. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du film et du travail du film, des rencontres que j'ai pu faire, que la question du son, elle n'était pas possible seule. En fait, elle est possible contextuellement et il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Bah, par exemple, le paysage, comme je vous le disais, les questions d'habitude, les questions aussi de, pas d'éducation, mais comment on a appris aussi à prononcer et même du coup de transmission. En fait, si on reprend un troupeau, on va utiliser au début les mêmes mots que l'éleveur précédent ou l'éleveuse précédente disait pour appeler ce même troupeau-là qui a été transmis. Par exemple, même sinon, moi, je vois, par exemple, par rapport à mon grand-père, je sais que potentiellement, si j'avais un troupeau, j'appellerais le troupeau comme mon grand-père a pu le faire sans qu'il y ait eu transmission de troupeau, mais il y a transmission orale, juste familiale. Et
Il y a aussi la question des prénoms qui sont donnés aux animaux.
il y a plusieurs cas de figure. Il y a les gens qui respectent l'alphabet. Enfin, cette année, c'est l'année des U, par exemple. Il y a des gens qui donnent des noms par rapport au caractère. Souvent, j'ai souvent entendu dire ça. Des caractères ou à des caractéristiques physiques de l'animal. S'il y a une tache à tel endroit ou si il y a une corne et pas l'autre parce qu'elle a été cassée à tel moment. Parfois lié à la descendance que l'animal a pu avoir. Ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup et qui était aussi lié aux marques qu'on a pu faire pour identifier les animaux à Ouessant, par exemple. Souvent, c'est le parler local. Donc voilà, l'occitan par exemple, il n'est pas le même en Gironde chez mon grand-père que chez Sylvie qui est interrogée juste avant mon grand-père dans le film en Corrèze. Mais souvent, ça veut dire la même chose, mais juste, c'est pas prononcé de la même manière.
Et au niveau du fait de siffler?
J'ai rencontré personne qui sifflait, ou en tout cas, à part aux chiens, souvent pour les appeler qui reviennent au pied de l'éleveur ou de l'éleveuse, mais c'est tout. Au tout début du film, quand même, en fait, j'avais mené cette recherche parce que je souhaitais rencontrer des gens qui sifflaient ou qui chantaient, qui avaient vraiment des pratiques, voilà, on peut dire artistiques ou même. C'était un peu idéalisé le milieu de l'élevage, je pense, à ce moment-là, à un moment où, en fait, moi, je venais de rentrer dedans, mais de manière assez récente, quoi. Donc, pour l'instant, j'ai rencontré personne qui chante, en tout cas, ça s'est fait. Ça s'est fait à d'autres endroits qu'en France, parce que,
Par exemple,
bah, par exemple, il y a le kulning, comme on appelle ça, dans les pays du Nord, Finlande, Suède, Norvège, où du coup il y a des chants principalement exercés par les femmes pour appeler les animaux. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que vu que le monde de l'élevage a changé, il y a des pratiques qui se sont perdues liées au mode d'élevage qu'on peut avoir. Et donc, en fait, par exemple, le chant ou le sifflement, le chant qui a induit le fait qu'en fait le son doive porter hyper loin et durer un certain temps pour que les animaux puissent l'entendre, en fait, c'est lié à des pratiques d'élevage extensives, donc souvent liées à l'alpage. C'est l'idée que j'avais, et c'est ce qui est encore le cas, où dans des pratiques d'élevage, voilà par exemple, où les terres pâturées sont composées également de bois, et donc du coup, voilà, en fait, on chantait vraiment des sons particuliers, bien sûr, mais les sons, ils sont pas forcément liés à, voilà, grave pour les vaches, aigu pour les brebis, c'est lié au paysage, à la manière dont le son doit se propager pour que tous les animaux du troupeau ensemble doivent l'entendre, et à une certaine distance surtout. Mais voilà, c'est une pratique d'élevage extensive, quoi. Et donc, je pense que ça a existé, c'est absolument sûr, et je vois pas pourquoi, je crois pas à l'inverse, quoi. J'y crois pas du tout. Mais l'élevage a changé de telle manière à ce que ces pratiques-là ont disparu parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, on n'en a plus spécifiquement besoin.
Quand on met les sons au centre d'une démarche artistique et des réalisations d'un film, qu'est-ce que les images nous disent de plus par rapport aux sons qu'on peut entendre?
Les images, elles témoignent du paysage. Donc, je trouve que ça donne toujours un indice de, voilà, si on parle de telle pratique d'élevage, elle est liée à ce paysage-là. Et donc, du coup, on va s'imaginer que ça se propage de telle ou telle manière et que, voilà, il y a aussi un côté, un truc d'enchantement lié au paysage en lui-même, par exemple. Les images donnent aussi à voir l'importance des troupeaux, par exemple. Et donc, du coup, comme je vous disais juste avant par rapport aux chants et qui doivent durer un certain temps pour que tout le monde l'entende et assez loin, voilà, la taille du troupeau va interférer sur cette pratique-là, et puis voilà, ça va nous donner un indice, quoi. Mais après, les images étaient essentiellement là aussi pour donner un cadre, pour donner un cadre aussi pour entendre la musique du troupeau elle-même, les cloches par exemple, qui est du coup dans l'emploi du son dans l'élevage, un truc hyper important.
Est-ce que techniquement c'était compliqué de rendre tous ces sons et de les mettre au centre de votre narration finalement?
Je sais pas parce que c'était le premier film que je faisais. Donc du coup, en fait, j'ai filmé ce que j'ai filmé, j'ai enregistré ce que j'ai enregistré, et donc du coup, j'ai construit le film sur cette base-là, sans faire un montage très spécifique, parce que voilà, c'était le réel. C'est comme ça que ça s'est passé quand j'ai travaillé dessus, et c'est tout quoi. Et donc, bah, je pense que ce qui est bien avec ce film-là, c'est que même s'il n'y a pas toutes les choses que j'espérais avoir, que j'espérais trouver, entendre, voir, en gros. Je pense que ça peut parler à des gens qui, eux, seront à même de compléter en fait ce qui peut se dire par leur expérience, leur vécu, ce qu'ils ont pu entendre et voir au fur et à mesure de leur vie.
Et c'est un travail toujours en cours parce que nous nous trouvons à Saint-Julien-en-Vercors où vous êtes venu rencontrer un berger.
Oui, effectivement, Jean-Marc, qui était là juste avant que je retourne voir demain. Je continue ce travail parce que des associations culturelles m'ont permis de le poursuivre. Et donc ça s'est mis en place avec trois associations culturelles des Alpes. Donc il y a l'Envers des Pentes, qui met en place des résidences d'artistes, tous médiums confondus, dans le Parc national des Écrins, et en partenariat avec le Centre d'art La Halle à Pont-en-Royans et la Villa Glovette à Villard-de-Lans, et qui ont décidé de se mettre ensemble pour proposer une résidence d'artistes en alpage. Et de travailler, d'avoir l'opportunité de travailler avec des bergers, des bergères, des éleveurs et des éleveuses pour un peu, et ce qui moi m'est cher, un peu abolir les frontières entre certains domaines. Et oui, le travail se poursuit encore parce que je suis encore salarié agricole, donc ça m'intéresse toujours aussi d'un point de vue agricole, quoi, purement et simplement. Et parce que je pense que c'est hyper riche, que les pratiques d'élevage, il y en a autant qu'il y a d'éleveurs et d'éleveuses. En France, en Europe ou dans le monde entier. Et donc je pense que c'est un travail un peu interminable et toujours aussi riche et excitant à découvrir et à apprécier, quoi.
Et au niveau des retours que vous avez pu avoir, on rappelle, c'est un film de 2021, donc vous avez eu l'occasion de les montrer à quelques-uns. Est-ce que vous avez eu des retours auxquels vous ne vous attendez pas ou qui vous ont surpris ou fait plaisir ou pas?
Moi, j'ai eu des retours dans un cercle familial et d'amis qui a beaucoup compté parce que c'est beaucoup de gens qui n'ont pas de rapport avec l'élevage. Donc, c'était assez beau de les voir découvrir des choses qui, moi, me semblent absolument banales parfois. Mais il a eu assez peu de projections, ce film. Donc, j'ai eu assez peu de retours parce que c'est arrivé que je ne sois pas là. Donc, du coup, là, c'est un peu la première fois où je serai là, en fait, pour la projection. Et où, du coup, ce sera la première fois là où j'aurai la possibilité de discuter avec les gens et d'avoir les retours en réel. Et voilà, mettre en place des discussions avec les gens qui seront venus le voir. Et ce sera pas la première projection, mais la première où j'aurai la possibilité d'entendre ce qu'on a à dire dessus. Donc, vous pouvez venir. Ce film, il va être projeté jeudi 26 octobre, à 19h, à la Crescia. Lens-en-Vercors, suivi d'un buffet pour découvrir les produits de l'éleveur et d'une discussion autour d'un verre et autour du film, quoi.
Merci.
Merci à vous.
Tu les vois là-bas au fond?
Oui.
Un problème, je pense qu'elles vont pas toutes pouvoir passer.